Merci à Olivier Joinjean. Je suis très heureux d'être ici à l'Institut Villet. Je dois confesser, je suis un peu préoccupé parce qu'il y a ici des collègues très importants qui sont des maîtres du droit public contemporain, mais aussi ils sont des experts d'histoire du droit public et du droit administratif en particulier, plus et mieux que moi qui sont professionnellement un historien du droit. Alors, c'est pour moi un peu difficile de parler en français ici dans un institut dédié à un personnage très important pour la formation élémentaire de chaque juriste continental comme Michel Villet, personnage central de la philosophie du droit et de l'histoire du droit. J'ai intitulé mes conférences « La belle époque du droit administratif italien » Vittorio Emanuele Orlando et Santi Romano. La belle époque du droit administratif est une expression qui appartient à Olivier, une expression que je crois particulièrement efficace, bien choisie par Olivier pour une importante contribution de synthèse période dans l'handbook des Ius Publicum Europeum coordonné par Armin von Bogdandi à Heidelberg. La belle époque, vous connaissez bien, est un moment chronologique précis de l'histoire européenne, fixe les tournants entre 19e et 20e siècle. C'est le moment joyeux de la grande bourgeoisie continentale, le moment de la modernisation rapide et du développement technologique, le moment d'essor d'une opinion publique internationale, le moment des expositions universelles. La guerre mondiale est encore lointaine, inimaginable, imprévisible. Pour les juristes, c'est surtout le moment du comparatisme. Vous connaissez bien que Saleh et Lambert organisent à Paris, pendant l'été 1900, le premier congrès international des droits comparés. Pour l'Italie, est précisément Vittorio Emanuele Orlando, homme politique déjà significatif de l'Italie libérale, futur ministre de la Justice, et à la fin de la Première Guerre mondiale, premier ministre, qui a été invité à participer. Mais l'assassinat du roi Umberto Ier à Monza, dans le voisinage de Milan, des jours avant la séance inaugurale du congrès, l'empêchera de participer. Déjà la Société pour la législation comparée, fondée encore à Paris en 1869, avait l'objectif d'étudier les sortes différentes de législation contemporaine. Les mots inscrits dans les armes de la société, lex multiplex, universa curiositas, ius unum, démontraient une curiosité inédite, révélait la nécessité tout à fait nouveau pour les juristes du 19e siècle de garder au-delà de l'ordre juridique de l'État, d'étudier les législations étrangères, de confronter l'activité législative nationale avec la législation des États voisins et différents. Au début du XXe siècle, au moment 1900, encore une expression efficace d'Olivier, avec la naissance du comparatisme moderne, l'objectif devient, comme on peut dire, plus subtil, plus courageux. La codification civile s'est imposée en Allemagne, est presque arrivée à conclusion en Suisse. Le code civil est devenu les symboles d'un processus commun et convergent de modernisation de l'ordre juridique continental. La France va célébrer les premières centenaires du Code civil. Et particulièrement sur les terrains du droit civil, existe une langue commune et amplement partagée par tous les juristes continentaux. Comparer, pour les civilistes, signifie rechercher, élaborer, unifier, écrit Saleh, une sorte de droit commun de l'humanité civilisée. Alors, les terrains privilégiés pour la comparaison sont donc les droits civils. Et surtout les droits civils des nations civilisées, les nations européennes. Le succès de la codification démontre et referme le cosmopolitisme du juriste civiliste. Le Code civil d'Europe continentale conserve naturellement une propre chronologie, parcours législatif tout à fait particulier, genèse et contenu différents, mais il reste les résultats d'une modernisation commune et partagée. La perspective du droit public est bien différente. La codification ici n'existe pas. Les textes constitutionnels eux-mêmes ne sont pas encore aussi considérables. On doit attendre les constitutions de l'après-guerre, la constitution de Weimar, la Constitution en Autriche, pour avoir des documents constitutionnels vraiment significatifs. L'administration même conserve des modalités nationales d'organisation territoriale et fonctionnelle particulièrement rélevantes. L'histoire institutionnelle de l'Europe continentale reste fragmentée et les systèmes de justice administrative surtout sont encore très variés et différents, avec degrés de développement très différents et différents partages de compétences entre juges ordinaires et juges administratifs. Et différents restent l'équilibre et les rapports entre jurisprudence et doctrine dans la formation des systèmes administratifs respectifs. L'image célèbre l'image de Jean Rivero, d'une jurisprudence née sur les genoux de la doctrine formulée pour la France, doit être probablement renversée pour l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie de la fin du XIXe siècle, où la doctrine reste, ça va sans dire non en sens formel, mais reste une source de droits primaires et formidables. Alors, les systèmes administratifs continentaux demeurent distincts pour l'histoire, la chronologie, l'empas de la législation administrative, la mise en place des différents systèmes de justice administrative, les équilibres normatifs, les frontières entre droit commun, droit civil et droit administratif, un droit privé et un droit public. Dans le champ du droit public, la comparaison donc reste possible, mais il devra suivre la multiplicité des régimes constitutionnels et administratifs et la marquante nationalité des différentes histoires politiques de chaque pays. Néanmoins, dès la fin du XIXe siècle, un modèle continental de droit administratif s'impose, en France comme en Allemagne, en Italie comme en Autriche. Il se distingue par une spécialité rigide du régime juridique condensé en système. Et progressivement, à l'histoire de la partie générale que le pandectisme allemand a réussi à insérer avec une valeur normative pleine dans les premiers livres du BGB, du Code civil allemand de 1900, il va réussir à élaborer une partie générale du droit public, un allgemeiner Teil des öffentlichen Rechts. Dans les droits administratifs de la fin du XIXe siècle, des lois générales sur l'activité administrative n'existent pas. Les principes directeurs du process administratif sont à peine ébauchés, soit la loi française de 1812, la loi italienne de 1889 et encore les lois autrichiennes ou de la Prussie. Et il semble encore rudimentaire par rapport aux structures des codes de procédure civile et des codes de procédure pénale. Le phénomène est donc différent respect à l'univers du civiliste. Une codification produite par la science juridique, comme le BGB, comme l'école civile allemande, ne trouve pas d'analogie dans les champs administratifs, encore irréductible à la possibilité d'une codification. Toutefois, un paradigme commun est en grande partie élaboré pour les droits continentaux, grâce à une sorte de vaste circulation des concepts, d'institutions, d'instituts juridiques, des solutions systématiques. La belle époque du droit administratif, si nous voulons dire les temps des cathédrales, c'est l'expression que François Bourdeau a utilisée dans un livre très important pour décrire les grands dialogues, les grands contrapoints entre Rieu et Dugui. Alors, la belle époque, les temps des cathédrales ont un caractère essentiellement doctrinal à la fin du XIXe siècle. Dans une discipline comme le droit administratif de domination nouvelle, fragile dans ses postulats conceptuels encore à la fin du XIXe, longtemps lié à la simple exégèse des sources normatives qui restent pour tout le XIXe siècle peu nombreuses et marginales respect à la codification civile et pénale. Et encore lié à la lecture des arrêts d'une jurisprudence fragmentée. Le cas français, c'est un peu extraordinaire dans la situation continentale. Certainement, la France démontre déjà dans le 19e d'avoir une jurisprudence particulièrement importante, particulièrement organisée, particulièrement réfléchie et progressive pour l'élaboration du droit administratif. Mais dans cette perspective des passages entre la phase de l'exégèse et la phase du système théorique, les passages entre le 19e et le 20e siècle se traduisent par un saut vers la scientificité. Dans les différents pays, de Rieu à Dugui, de Otto Mayer à Fritz Fleiner, da Vittorio Emanuele Orlando a Santi Romano, le cas de l'Italie, de Friedrich Texner à Hans Kelsen ou à Adolf Merkel, qui sont les maîtres principaux des droits publics autrichiens entre les deux siècles. C'est la science juridique qui construit la structure systématique du modèle administratif du XIXe. C'est aussi le moment où se consolident les statuts disciplinaires du droit administratif. Les grands revues projets sont contemporains. En Allemagne, l'archif für öffentliches Recht, l'archif pour les droits publics, commence ses publications en 1885 et s'intitule Archiv des öffentliches Rechts à partir de 1911. En France, la revue du droit public imprime son premier numéro en 1894. En Italie, l'archivio di diritto pubblico paraît régulièrement en 1891 et 1896, pour être ensuite reprise en 1902 et enfin en 1909 avec les titres des rivistes di diritto pubblico et de l'amministrazione italiana. Pour autant, les nationalités demeurent, elles suivent leur propre système législatif et constituent des limites précises et infranchissables. Par exemple, la complexité des problèmes italiens de partage de juridiction n'a pas d'équivalent dans les autres modèles continentaux, même si le thème des droits publics subjectifs y est amplement répandu, et de l'Allemagne à la France, de Georg Jelinek à Joseph Barthélemy. Toutefois, un paradigme juridique commun prend forme sur des thèmes absolument centraux, en particulier l'acte administratif, à partir de la décision exécutoire de Maurice Rieu, du Verwaltungsakt, de l'acte administratif qui soutient toute la structure de Deutsches Verwaltungsrecht, des droits administratifs allemands d'Otto Mayer, de l'acte administratif di Vittorio Emanuele Orlando et Santi Romano, mais aussi les pouvoirs discrétionnaires, les contrôles juridictionnaires de l'action administrative, la propriété publique, les contrats administratifs et encore. Ces paradigmes communs utilisent les mêmes langages, restent fondés sur instituts partiellement différents. Il y a beaucoup de relations, mais différences sensibles entre les services publics et la FDA-STALT. Par exemple, entre la France et l'Allemagne. Mais ces paradigmes communs utilisent les mêmes langages. Les langages sont les mêmes. Les instituts peuvent être différents, les équilibres entre l'institution, l'organisation administrative, les rapports entre les juges administratifs et les juges ordinaires peuvent être différents, mais les langages restent communs. Et communs restent les images du pouvoir public. Et surtout, toute cette image dessine une même spécialité administrative. Concrètement, ces principes, élaborés par une doctrine à forte base européenne, tracent et délimitent l'univers symbolique du droit de l'administration dans son ensemble, dessinant une image bien enracinée jusqu'à aujourd'hui dans les patrimoines conceptuels du juriste continental. Ces principes, comme l'avait bien vu Rivero, s'appuient sur les règles du cas particulier repérées par les juges. Ils s'alimentent en première lieu, comme en France, d'une matière jurisprudentielle variée, attentivement filtrée par l'invention créative du Conseil d'État. Ailleurs, en Allemagne comme en Italie, à la fin du XIXe, où l'hypostase publicisante liée à la scientifisation du Staatsrecht, du droit public de l'État, est plus fortement diffusée qu'en France, ces principes proviennent assez souvent de manière déductive d'une série de postulats sur ce qu'est le pouvoir administratif, énoncés directement par la doctrine. Et ils pénètrent donc dans le lexique de la jurisprudence et, grâce à l'exécution de la décision judiciaire, parviennent à se traduire en règles applicables, en règles du droit positif. En Allemagne en particulier, où la tradition jurisprudentielle du juge administratif était encore faible et fragmentée entre les différents Länder à la fin du XIXe siècle, la doctrine fut particulièrement déterminante. Et la partie générale dessinée par les juristes peut-être pour être systématisée autour de la notion d'acte administratif, de Verwaltungsakt. Otto Mayer, en particulier, vous connaissez que Otto Mayer est une sorte de pont entre la France et l'Allemagne, Strasbourg, et la possibilité d'écrire en français et en allemand. Souligne le fait que la construction juridique de l'administration ne pouvait être confiée ni au législateur ni au juge, mais qu'elle devait être le fruit d'un vrai Juristenarbeit, d'un travail doctrinal, d'un travail de juriste, un travail propre à la science juridique. Alors, je viens à l'Italie. En Italie aussi, le rôle de la science juridique dans la scientificisation du droit administratif fut déterminant. Nous avons déjà fait le nom des principaux protagonistes, Vittorio Emanuele Orlando et Santi Romano. Tous les deux sont nés à Palermo, en Sicilie, Orlando en 1860, Romano, qui fut élève d'Orlando à l'Université de Palermo, en 1875. Ils sont des protagonistes centrales de la culture juridique italienne entre l'Italie libérale, fascisme et les premiers débuts de la République. Orlando va mourir à Rome en 1952. Il a une longue vie dans les institutions, dans l'Académie italienne. Romano, quelques années plus tôt, en 1947. Ils appartiennent donc, Orlando et Romano, alla même école, la scuola italiana di diritto pubblico, l'école italienne du droit public. Ils partagent la même méthode, la méthode juridique, et ils participent à les mêmes initiatives éditoriales, les reviews déjà citées, les reviews que j'ai citées avant, sont directement fondées par Orlando, et Romano écrit beaucoup des essais dans cette review. Et encore, aux côtés de la review de l'archive et après la rivista di diritto pubblico, encore la mise en place de la grande entreprise de la publication du premier traité de droit administratif italien, une œuvre en plusieurs volumes importants, coordonnés et projetés par Orlando, romano publié à la fin du 19e, ses premières monographies assez significatives sur le droit public subjectif. Il poursuit une brillante carrière académique dans les principales universités italienne jusqu'à Rome. Ils sont les auteurs des manuels plus diffusés du droit public, du droit constitutionnel, mais aussi du droit administratif. La leur contribution à l'évolution du droit public et du droit administratif en particulier italien reste remarquable. L'apport d'Orlando est tout d'abord méthodologique. Le droit public doit être construit avec une précise mentalité juridique, contre l'excès des philosophies et contre l'excès de l'exégèse. Le droit administratif, en particulier, n'est pas le simple recueil des différents lois administratifs. Le droit public, dit Orlando, est un système de principes juridiques systématiquement coordonnés. Droit administratif et droit constitutionnel ont déjà, et en Italie avant Orlando, une tradition significative qui a accompagné la concession de la charte constitutionnelle italienne dans le règne de Piémont-Sardaigne en 1848, le statuto albertino, et encore l'évolution de la législation administrative qui suit l'unification politique en 1860. Mais on peut classer, et on classe ordinairement, la culture juridique italienne du droit public avant et après Orlando. On parle des juristes pré-orlandiennes et des juristes orlandiennes et après Orlando. Tant est relevant l'apport méthodologique du maître sicilien. Romano, qui nous avons vu est un peu plus jeune, et 10 ans après le manuel d'Orlando, le premier manuel d'Orlando des principes de droit administratif de 1889, au début du XXe siècle, dans un petit livre peu connu, mais de grande valeur, I principi di diritto amministrativo italiano, est capable de construire une véritable théorie générale des droits administratifs. Il partage les droits administratifs en 9 théories générales et élabore un système vraiment coordonné des principes juridiques des droits administratifs italiens sur la base d'une circulation culturelle qui garde à la France et qui observe l'évolution allemande. La théorie générale n'est plus seulement le produit de la science du droit privé. C'est quelque chose de tout à fait nouveau dans la science juridique européenne et certainement dans la science juridique italienne. Pour la première fois, nous avons des contributions de théorie générale qui non vient des romanistes ou des civilistes, mais qui vient directement des publicistes, des culteurs, des professeurs du droit public. Le droit public a enfin élaboré sa propre théorie générale dans la même chronologie dans laquelle s'est complétée la codification en Europe avec les BGB, le Code suisse, le premier centenaire du Code civil français. En Italie aussi, on arrive donc à la théorie générale, dans la dernière décennie du XIXe siècle, avec la vague d'un germanisme administratif désormais marqué de pandectisme. Ces juristes changent l'inclination pré-orlandienne vers la France, vers la doctrine administrative française de l'ONU Coq à la Ferrière, et ils virent l'attention vers l'Allemagne et surtout vers Laban, Jelinek et encore Ottomayer. Et on arrive en Italie à la théorie générale en parallèle avec l'installation définitive de la justice administrative, parce qu'en Italie, la quatrième session du Conseil d'État, la session qui a compétence des juridictions, fut fondée en 1889 et grâce à un processus dans lequel les rôles de la doctrine de la jurisprudence, dépassent largement celui du législateur. Alors, comme on peut voir les rapports entre Orlando et Romano, ce rapport du maître à son élève, vous avez vu probablement l'image que Jean-Michel Blanquet et Marc Billet ont si bien utilisée pour leur excellente biographie croisée de Léon Duguay et Maurice Horiot, L'invention de l'État. Et l'image que Blanquet et Millet ont utilisée est l'image des deux listes dans la République. La République n'existe pas en Italie à la fin du 19e, nous sommes à l'intérieur du règne d'Italie, mais aussi, je crois que l'image des deux listes ne s'adapte pas à la relation entre Vittorio Emanuele Orlando et Santi Romano. Parce que Orlando et Romano sont un peu en succession, un peu en collaboration entre les fondateurs du droit public moderne en Italie. Ils travaillent ensemble, ils travaillent en collaboration, en succession, mais leur biographie et leur parcours intellectuel restent très différents. Orlando est un grand académicien et un grand avocat. Devient bientôt un protagoniste de la vie politique nationale. Membre de la Chambre des députés de 1897 à 1925. Ministre de l'Instruction nationale, plusieurs fois ministre de la Justice avec Giovanni Giolitti avant la guerre, devient président du Conseil des ministres à la fin d'octobre 1917, après la défaite militaire italienne de Caporetto envers l'armée autrichienne. Jusque reste président du Conseil des ministres, on nommait en Italie le président de la victoire, jusqu'à les traités de Versailles en 1919. Protagoniste de l'opposition libérale au fascisme, Orlando s'est retiré de l'enseignement et déjà âgé au début du fascisme, il est né en 1860. Il s'est retiré de l'enseignement au début du fascisme pour non prêter serment de fidélité au régime. Et après la Deuxième Guerre mondiale, Orlando fut de nouveau élu à l'Assemblée constituante italienne pour la fondation de la République, mais il n'a pas été appelé à rejoindre la commission de rédaction de la Constitution, la commission que nous Italiens considérons de 75, de 75, la commissione de 75. Romano ha curriculum, un vite tout à fait différent. Il n'a jamais participé à la vie politique, ni a exercé la profession d'avocat. Protagoniste d'une brillante carrière académique, il devient professeur ordinaire très jeune. Il enseigne droit constitutionnel, droit administratif, droit international, droit colonial, droit ecclésiastique. Étranger au mouvement fasciste, deviendra membre du parti seulement à la fin de 1928, il a été appelé par Mussolini lui-même à la présidence du Conseil d'État. Il n'est fait partie du Conseil d'État avant. Il est tout à fait étrange à l'organisation, à la structure du Conseil d'État, un professeur universitaire, mais Mussolini change la précédence institutionnelle interne au Conseil d'État et nomme directement Santi Romano, probablement les juristes en ce moment plus importants de l'Italie entre l'Italie libérale et le fascisme à la présidence du Conseil d'État. Et Romano reste président du Conseil d'État pendant tout le fascisme, de 1929 à 1944. Il a démissionné avant le transfert du Conseil d'État à Cremona, dans le nord de l'Italie, dans la République sociale du nord de l'Italie, l'État collaborationniste de l'armée nazie dans le nord d'Italie. Romano sera soumis à un procès d'épuration à la fin de la guerre et il ne prendra part à l'édification de la République. Il écrivera un livre important, Les fragments d'un dictionnaire juridique, en 1946, il publiera la deuxième édition de l'ordre juridique, mais absolument dans le silence, en retraite lointain de la vie politique, de la discussion publique qui accompagne la fondation de la République italienne. Différents les biographies, différents les parcours intellectuels, bien différents restent aussi les respectives itinéraires intellectuels vers l'Allgemeine Staatslehre, vers la doctrine générale de l'État. Ces itinéraires ont, nous l'avons vu, des importantes racines communes. Des racines communes qui nous pouvons voir dans les raisons méthodologiques inspiratrices de l'école italienne de droit public, dans l'option pour la méthode juridique, dans la fréquentation commune des juristes allemands. Orlando est le traducteur italien de Georg Jelinek, soit des droits publics subjectifs, soit de la doctrine générale de l'État. Romano sera, à la veille de la Première Guerre mondiale, auteur d'un italienische Staatsrecht, un manuel de droit public italien écrit en allemand destiné au public allemand, mais jamais publié pour le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il a été publié en italien, la version italienne, mais il y a quelques années, très récemment. Il reste tous les deux, soit Orlando, soit Romano, et il y a des différences en respect à le duel entre Oriu et Dugui, restent tous les deux des adorateurs de l'État. L'iconoclastie de certaines pages de Dugui, ou pour raison parallèle dans Skelzen, n'a pas qu'une possibilité de circulation en Italie dans ce moment. La doctrine générale de l'État en Italie reste fondée dans la péninsule entre la Première Guerre mondiale et le fascisme, sous la réalité substantielle de la personne juridique de l'État. Orlando, néanmoins, restera toujours lié à la perspective savinienne, la perspective de Friedrich Carl von Savigny, la perspective organiciste, fondée sur la dialectique entre l'État et le peuple, dans une vision traditionnelle propre d'un libéralisme conservateur typique du XIXe siècle, fidèle quand même au système représentatif et à la centralité du gouvernement parlementaire. Romano fut probablement plus sensible à des vagues autoritaires, mais possède en revanche la capacité extraordinaire de lire et comprendre les nouveautés du siècle nouveau, du XXe siècle, les transformations pressantes de l'état de droit, la complexité montante des faits sociaux. Dans des œuvres capitales de la culture juridique italienne, l'état moderne et sa crise, c'est une prolusion académique prononcée à Pise, 1909, et surtout dans l'ordre juridique, 1918, encore une œuvre publiée à Pise, Romano arrive à partir de ses bases publicistes fondées sur la centralité de l'État a développé une théorie de pluralisme juridique capable de représenter la complexité des institutions que forment les tissus sociaux. Romano prend des principes de droit public d'Oriot, les concepts d'institution comme catégorie générale d'Oriot aux sources de droit. Mais il va plus loin d'Oriot et fixe une analogie étroite entre institution et ordre juridique. Et donc, sur la base de la multiplicité des institutions, formule une théorie de la pluralité des ordres juridiques. L'État, bien sûr, est un ordre juridique. Est l'ordre juridique majeur, l'ordre juridique plus significatif, plus complet, plus construit. Mais ordres juridiques, pour Romano, ils sont également soit des vrais microcosmes juridiques, l'entreprise, les navires, les sociétés et associations illicites, la mafia, par exemple, ou encore des macrocosmes en formation, comme la communauté internationale. On peut donc voir la force et l'intensité de la circulation culturelle, au moins au niveau continental. La belle époque du droit public est partout en Europe, la belle époque du droit administratif, mais aussi la belle époque de la doctrine générale de l'État, de la théorie générale de l'État, de la Gemeine Staatslehre. Kelsen même écrira en 1925 un rêve capital de la Gemeine Staatslehre très différent de l'œuvre de Jelinek, mais sur cet itinéraire intellectuel. Et en particulier dans la pensée de Santi Romano, à côté et au-delà du droit public positif, centré autour de l'exclusive souveraineté de l'État, prend force un droit public général dans lequel l'État devient institution entre les différentes institutions sociales. Et émerge une relation beaucoup plus complexe entre État et droit. L'ordre juridique que Romano écrit en 1918 est tout à fait manquant de références normatives au droit positif italien de l'époque. Est un livre pensé comme un livre de théorie générale, comme un livre pour les droits publics généraux, pour écrire une sorte de théorie générale de l'État et des relations entre État et droit. Et la nouveauté de Romano, en respect à Orlando, est le début d'une perspective pluraliste capable de suivre la multiplicité croissante des différentes sources de droits. Romano reste une sorte d'énigme sur le plan de l'interprétation historiographique. En Italie aussi, nous avons des lectures très différentes, quelquefois vraiment opposées du Santi Romano. Pour quelqu'un, Santi Romano est le président du Conseil d'État du régime fasciste, donc un juriste autoritaire, un juriste qui a écrit des manuels de droit public fondée sur la centralité de l'État, sur la souveraineté de l'État, mais pour plusieurs d'autres, Romano est le fondateur d'un pluralisme juridique qui, attaché à l'institution d'Oriot, est capable de comprendre l'évolution du droit dans le XXe siècle et de fournir une sorte de réponse à la complexité des relations entre État et droit. Alors, je pense à une lecture dans le passé, c'est particulièrement important en Italie, de Norberto Bobbio. Bobbio a parlé des monismes et des pluralismes di Santi Romano parce que la production littéraire di Santi Romano est extrêmement variée, passe du droit public positif au droit public général, à la théorie générale du droit. Et monisme et pluralisme restent donc au cœur de la théorie romanienne, expliquent certaines relations entre complexité sociale et monisme de l'État qui seront typiques du corporatisme fasciste. Il y a beaucoup d'élèves de Santi Romano dans les juristes du fascisme, mais en même temps, du prise de distance envers la théorie romanienne par l'establishment du fascisme qui est centré sur le caractère monolithique de l'État fasciste. Mais aussi, aux côtés de cette vision moniste, nous avons une vision pluraliste qui est capable de fonder certaines perspectives qui sont encore poursuivies par le pluralisme juridique italien d'aujourd'hui. L'attention que la culture juridique italienne a dédiée l'année dernière au premier centenaire de l'ordre juridique de Santi Romano est, je crois, la démonstration de l'influence persistante que cette perspective théorique, bien au-delà du seul droit administratif, continue d'exercer sur les juristes italiens. Merci de votre patience et de votre attention.